de Zacharie. C'est le prophète Zacharie, l'avant-dernier des prophètes de l'Ancien Testament que nous devons considérer. C'est un grand prophète. Son livre est assez long et il est très riche, très raffiné, de telle sorte que nous devrons nous contenter d'une vue d'ensemble, d'une sélection de quelques points particulièrement importants. Je vais lire les deux chapitres qui sont au centre de la première partie et sur lesquels je reviendrai. Ils ne sont pas très faciles à suivre. Le style de Zacharie est un style très dense et parfois un peu compliqué. Mais les explications que j'essaierai de donner tout à l'heure devraient permettre d'y voir clair. Et il faut commencer par lire. Donc je vais lire les deux chapitres 3 et 4 de Zacharie, après quoi nous demanderons au Seigneur son aide pendant notre étude. Et c'est à Madame Jean-Marie que je demanderai de nous conduire dans la prière après la lecture de Zacharie 3 et 4. Il me fit voir, il s'agit de Dieu et peut-être de l'ange que Dieu envoie pour aider Zacharie dans l'expérience de la vision, il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales !» Puis il dit, « Voici, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent le turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Alors l'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison, tu garderas aussi mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont avec toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, me voici, je fais venir mon serviteur, le germe. Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, oracle de l'Éternel des armées, et j'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres, sous la vigne et sous le figuier. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, le surplombant. 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que cela ? Mon Seigneur, l'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? L'on se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ces 7-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis, « Que sont ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche. Je pris une seconde fois la parole et lui dis, « Que sont les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux tubes d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne reconnais-tu pas ce qu'ils sont ?» Je dis, « Non, monseigneur. » Et il dit, « Ce sont les deux oints qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. » Prions Dieu maintenant. Amen. Je vous rappelle la situation. Le peuple d'Israël, globalement considéré, celui du royaume des 10 tribus et celui du royaume de Juda, auquel Benjamin était associé, ce peuple des 12 tribus, choisi par Dieu, à cause de ses fautes, par châtiment annoncé depuis longtemps par les prophètes, a été déporté loin de sa terre. Le peuple d'Israël a été déporté en deux grandes phases pour le royaume des 10 tribus et puis pour le royaume de Juda au 8e siècle et au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont été déportés en Babylonie, donc près du golfe Persique, dans la région qui est aujourd'hui celle de l'Irak. Je vous rappelle en gros la carte, donc Juda, Jérusalem, c'est ici avec la mer Morte, et la Babylonie avec le golfe Persique par ici, se situe un peu plus au nord et surtout à l'est. Il y a le grand désert d'Arabie qui sépare, donc lorsque l'on fait le voyage, on passe comme ça. Mais après 70 ans de domination des Babyloniens sur toute cette région du Moyen-Orient, après 70 ans, comme l'avait annoncé le prophète Jérémie, il y a au moins deux oracles tout à fait clairs qui précisent ce délai, les Babyloniens ont été vaincus par la puissance des Mèdes et des Perses. Les Mèdes sont des habitants des montagnes par ici, les Perses une région encore un peu plus à l'est, et un empire Médo-Perse, fondé par Cyrus le Grand, a remplacé l'Empire babylonien. Et, comme les prophètes l'avaient annoncé, les Israélites, les Judéens, qui étaient établis dans les colonies de déportés de la région de Babylone, ont eu le droit de rentrer au pays. En 538, Cyrus a pris un décret qui autorisait le retour. Alors, ils ne sont pas tous revenus de loin. Et d'ailleurs, les prophètes l'avaient dit, c'est un reste, le reste des plus fidèles qui seulement reviendraient par caravanes successives, quelques milliers de Judéens et d'Israélites sont revenus dans la terre de leurs ancêtres, à Jérusalem et alentour. Ils ont commencé à rebâtir le temple, mais les païens, semi-païens qui s'étaient installés dans la région n'ont pas été contents, ont fait obstruction, et très vite le petit groupe de ceux qui étaient rentrés s'est découragé, a laissé les travaux en plan, et puis chacun a essayé de se débrouiller comme il pouvait. Et alors en 520 avant Jésus-Christ, Dieu a suscité deux prophètes pour réveiller l'énergie, l'ardeur, la foi de cette communauté, de ceux qui étaient revenus au pays. Oui, monsieur.
Vous pouvez vous mettre devant le micro, s'il vous plaît.
Oui, c'est ça, c'est à cause du tableau, mais je peux peut-être rapprocher le tableau. Voilà. Merci bien, monsieur Charles. Donc, en 520, Dieu a suscité deux prophètes pour réveiller son peuple et pour l'exhorter à reconstruire vraiment la maison de Dieu qui avait été détruite, le temple. Ces deux prophètes étaient d'une part un prophète sans doute fort âgé, qui s'appelait Agjé, je ne fais pas de jeu de mots, hein, en fait, en hébreu, c'est Haggai, et nous avons étudié son message la fois dernière. Il a juste eu à prophétiser à ce moment-là, dans ce créneau historique très particulier, 520 avant Jésus-Christ, pour dire il faut rebâtir, et si vous rebâtissez, si vous donnez la priorité à l'œuvre de l'Éternel, à son temple, je vous bénirai en retour. Et puis un autre prophète qui sans doute était fort jeune, lui, à ce moment-là, de race sacerdotale, qui aurait dû être prêtre essentiellement, Zacharie. Et alors Zacharie a d'abord secondé Agjé en 520, mais Dieu lui a donné un ministère beaucoup plus long, avec des prophéties beaucoup plus riches de contenu, des promesses allant plus loin dans l'avenir. Zacharie a été un prophète récapitulateur, pourrait-on dire, de toute la série des prophètes venus avant lui. Son livre est un livre de prophétie érudite, si on peut employer l'expression, mais elle n'est pas du tout inconvenante, parce que Dieu suscite parfois des prophètes en leur disant comme ça, juste sur le champ, ce qu'il faut dire. Mais Dieu suscite aussi des prophètes qui réfléchissent à l'avance, qui méditent la parole qu'ils auront à apporter. L'Esprit de Dieu travaille en eux pendant des heures et des heures. C'est autant de la prophétie, et même peut-être davantage, enfin non, pas davantage, autant, que si c'est juste sur le champ qu'ils reçoivent la parole à dire. Alors, Zacharie, on le voit bien par son livre, est un prophète qui a été inspiré d'une façon méditative, qui a réfléchi sur les livres des prophètes venus avant lui, parce que son livre est truffé d'allusions, de souvenirs des prophètes antérieurs, dont il reprend en quelque sorte tout l'héritage, d'une manière qui est appropriée à la situation où le Seigneur l'a placé, et cela bien sûr conduit par l'Esprit même du Seigneur. Je crois que c'est Luther qui a dit que Zacharie était la quintessence de tous les prophètes. Vous savez, la quintessence, c'est le suc que l'on extrait après plusieurs opérations. C'est vraiment le plus précieux de tout le message qui se trouve concentré dans le livre de Zacharie. Et Zacharie, non seulement s'est montré un prophète très réfléchi en reprenant tout ce que ses prédécesseurs avaient dit, en le méditant et en lui donnant comme une forme renouvelée, mais il s'est montré aussi un très habile compositeur. Bon, là, je n'emploie pas le mot pour de la musique, bien que ce soit un mot qu'on emploie généralement pour de la musique, mais pour l'écrit qu'a composé Zacharie. Zacharie est un maître des symétries. Son livre est un livre séparé en deux gros morceaux, en quelque sorte. Vous avez les 8 premiers chapitres qui forment un gros morceau et qui semblent surtout datés de sa jeunesse, 520-519, peut-être un petit peu après. Et puis, un deuxième bloc, les chapitres 9 à 14, qui probablement datent de sa vieillesse. Mais là, il n'y a pas de date précise qui soit donnée. C'est la mention des Grecs qui fait penser que c'est la période de 480 avant Jésus-Christ à peu près, parce que les Grecs ont joué un rôle très important dans tout le Moyen-Orient à cette époque. Il y a eu guerre entre l'Empire perse et les Grecs, et du coup la mention des Grecs fait penser que Zacharie a prophétisé les choses que l'on trouve dans les chapitres 9 à 14, plutôt vers la fin de sa vie. 490, 480, peut-être 470, oui, on ne peut pas savoir de manière plus précise. Et alors ces deux morceaux se trouvent structurés l'un et l'autre de façon très savante, très très habile. Et je veux vous le faire percevoir avant de résumer les grands points du message. Pour la première partie du livre, bon, il y a d'abord une petite introduction dans les premiers versets, une petite introduction, merci bien, dans les premiers versets du premier chapitre, bon, ça c'est normal. Et puis il y a les chapitres 7 et 8 qui forment un tout à part, On vient poser une question au prophète, une consultation, et puis il répond, et il a un discours accompagnateur de sa réponse sur ce que le Seigneur veut faire à Jérusalem. Mais entre ces deux parties, donc l'introduction et puis une sorte d'épilogue au chapitre 7 et 8, ou de morceaux de transition dans le plan général du livre, nous avons une série de visions nocturne, c'est pendant la nuit qu'il a reçu ses visions, mises par écrit, retravaillées sans doute pour la mise par écrit du prophète. De 1, verset 7, jusqu'à 6, verset 8, nous avons une série de visions. Et il est manifeste qu'elle est construite de façon très symétrique. La première vision, au chapitre 1er, donc chapitre 1er, verset 8 et suivant, le verset 7 nous donne la date. C'est la vision des chevaux de diverses couleurs et qui représentent les éclaireurs du Seigneur l'Éternel qui parcourt toute la terre. Et puis un mystérieux personnage qui semble être l'ange de l'Éternel et l'Éternel lui-même à la fois. Pour nous, il sera assez clair que c'est finalement le Seigneur Jésus, le Fils, avant son incarnation, qui est cet ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même. Le mot ange veut dire messager, ça ne veut pas dire forcément une créature. C'est celui qui est envoyé. Alors le Fils est envoyé. Vision des chevaux. Bon. Eh bien, la huitième vision, au chapitre 6, verset 1 et suivant, c'est la vision encore de chevaux, mais de chevaux avec des chars, cette fois, vous voyez la correspondance. Donc vous avez une première vision et une huitième vision qui se correspondent, l'une tout au début, l'autre à la fin de la série, chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Puis ensuite, au chapitre 2, vous avez deux visions qui se correspondent. Les quatre cornes et les quatre forgerons. Alors c'est une vision donc qui met en scène des forgerons, première catégorie d'artisans. Vous avez de 2, 1 à 4, les forgerons qui abattent les cornes, symbole de puissance. Et il s'agit clairement des puissances qui ont fait du mal au peuple de Dieu, qui ont été les instruments de ces jugements, mais qui ne sont pas quittes pour autant si elles ont agi cruellement. Oui. Donc vous avez la vision des forgerons, puis vous avez la vision du mesureur. Après le verset 5, 2 verset 5, un homme qui tient dans la main un cordeau à mesurer. Cela représente les dispositions en vue de la reconstruction de Jérusalem. Mais c'est de nouveau un métier, vous voyez. Deux visions qui se correspondent, la punition des nations et la reconstruction de Jérusalem, avec deux artisans qui sont mis en scène. Puis, symétriquement, vous avez deux visions qui se correspondent au chapitre 5. Vous avez au chapitre 5 un rouleau volant, dans les versets 1 et suivants, le rouleau volant, et puis vous avez l'épha, qui est une mesure de quantité, un boisseau, la note dans la Bible à la colombe vous précise que le mot boisseau traduit le terme épha en hébreu, c'est une mesure de quantité volumétrique pour mesurer par exemple du blé, vous avez un épha de blé, c'est une assez grosse quantité. Alors vous avez le rouleau et vous avez l'épha avec une femme dedans, une femme qui représente la méchanceté, versets 5 et suivants. Deux objets volants, oui, parce que l'épha est volant, oui, je ne sais pas si je l'ai dit, comme le rouleau. Donc, ces deux visions font la paire, de nouveau. Et dans les deux cas, il s'agit du mal. Le rouleau représente la malédiction que la loi fait peser sur Israël à cause de toutes ses transgressions. Et la femme représente la méchanceté, l'iniquité, là encore, le péché du pays. Et ces deux visions proclament le message de l'enlèvement de l'iniquité. Il faut qu'elle disparaisse du pays. Et la femme méchanceté est emportée dans ce boisseau volant pour aller rejoindre le pays de Chinéa, c'est-à-dire Babylone, en fait. C'est là que se trouve la méchanceté. Elle ne doit pas se trouver à Jérusalem. Voilà le sens. Donc, voyez la structure. Deux et deux. Deux visions qui, avec la même signification, tout de suite après celle des chevaux, tout de suite avant celle des chevaux et chars. Et puis alors, au milieu, vous avez les deux chapitres que nous avons lus, qui se correspondent aussi. Il est question, dans les deux cas, des chefs du peuple. Josué, c'est pas le Josué après Moïse, ne vous faites pas d'illusions, ce n'est pas le Josué du livre de Josué, c'est un autre Josué. Josué, le grand prêtre ou souverain sacrificateur, comme vous voulez traduire, de l'époque, le chef religieux de la communauté qui est réunie à Jérusalem, et puis Zorobabel, qui lui est le chef politique, qui est un prince de la famille de David, de la lignée davidique, et qui a été nommé par les Perses commissaire général, gouverneur de Jérusalem. Donc il représente la royauté sur place. Alors dans ces deux chapitres, vous avez les deux grands leaders. Vous avez le thème de la pierre qui se trouve dans l'un et l'autre. Et la pierre semble avoir référence à la reconstruction du temple, car c'est la grande affaire à ce moment-là. Vous avez aussi d'autres éléments qui les unissent, mais ça nous le verrons un peu plus tard. De toute façon, au chapitre 4, les deux oliviers représentent les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Qui sont ces deux oints? Ce sont Josué et Zorobabel. Les oints, ce sont ceux qui ont reçu l'onction, c'est-à-dire l'huile sainte qui met à part pour le service de Dieu. Et les deux offices d'onction dans l'Ancien Testament, c'était l'office royal. Le roi était appelé l'oint de l'Éternel. Et l'office sacerdotal, le grand prêtre, était lui aussi mis à part par une onction, par de l'huile qui lui était versée sur la tête pour le mettre à part. Cette huile représentait sans doute le Saint-Esprit même, qui seul rend capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et alors, donc, au chapitre 4, l'accent est mis sur ces deux titulaires des offices d'onction, le grand prêtre et le prince de la famille de David, et ils sont représentés comme deux oliviers par lesquels l'huile qui alimente le chandelier pour que la lumière brille, par lesquels cette huile est dispensée. Voyez. Donc vous voyez le lien qu'il y a entre les chapitres 3 et 4, qui sont au centre du dispositif. Vous voyez que c'est une belle symétrie, c'est très bien composé. Et en plus, pour nous faire bien comprendre que ces chapitres 3 et 4 sont vraiment la partie centrale où le message le plus important nous est présenté, vous avez un additif au chapitre 6, les versets 8 et suivants, ou 9 et suivants, qui ne sont pas le récit d'une nouvelle vision, mais d'un geste symbolique qui, en quelque sorte, vient se rajouter à la signification de la série des visions. Quel est le geste symbolique que le prophète doit accomplir sur ordre de l'Éternel au chapitre 6, versets 9 et suivants? C'est un couronnement de Josué. Josué doit recevoir solennellement une couronne qui ensuite sera déposée dans le temple à titre de mémorial dans l'attente de l'accomplissement des promesses. Car Josué, il est un homme de présage, comme dit le chapitre 3. Il n'est là que comme une figure pour annoncer celui qui doit venir. Et donc la couronne de laquelle il est couronné a aussi une valeur symbolique pour l'avenir. C'est une sorte de symbole prophétique. Et nous le verrons, cette couronne est en fait une couronne double. Et un oracle accompagne qui dit que celui qui va venir, dont Josué n'est qu'une préfiguration, sera à la fois roi et prêtre, grand prêtre. Donc nous avons dans ce morceau du chapitre 6, verset 9 et suivant, ce couronnement symbolique, vous voyez, ce symbole gestuel, une relation directe avec le message des chapitres 3 et 4, où il s'agit de Josué, le grand prêtre, de Zorobabel, le prince davidique, qui représente en quelque sorte la royauté. Vous avez une relation très étroite qui nous signale que c'est bien cet ensemble 3-4 qui est le cœur du message que Zacharie devait apporter. Voilà pour la première partie du livre, pour vous donner une idée de la finesse et de la rigueur avec laquelle Zacharie a su composer son livre. Pour la deuxième partie, chapitres 9 à 14, ça ne s'aperçoit pas du premier regard tout autant. Et en fait, il y a eu des générations et des générations de commentateurs qui n'ont pas vu qu'il y a aussi une structure d'une symétrie extraordinaire. Très, très remarquable. Quand on se met à chercher, on se rend compte que les chapitres 9 à 14 sont construits sous la forme d'un grand W. Avec des prophéties, des thèmes qui se répondent symétriquement selon la symétrie du W, avec un espèce de croisillon au centre, ce qui est un dispositif vraiment là aussi très raffiné. En fait, c'est un jésuite qui a trouvé ça. Dieu se sert aussi des jésuites, parce que c'est une découverte qui m'a ébloui quand j'ai vu la démonstration, et les commentateurs évangéliques qui ont décrit depuis, c'est un jésuite français, hein, Paul Lamarche, qui a découvert cela, et les commentateurs évangéliques qui ont décrit depuis, en particulier mademoiselle Joyce Baldwin, qui est savante d'Ancien Testament très remarquable en Grande-Bretagne, qui a écrit le commentaire dans la série Tyndale sur ce livre, a repris les thèses de Paul Lamarche. Elle est bien d'accord, c'est bien ça. En général, les commentateurs évangéliques qui ont repris ont suivi Lamarche dans la mise en lumière de ce W. Alors, je crois que ça me prendrait trop de temps de vous donner toutes les références, mais simplement en suivant le texte, je vous donne une idée de la symétrie. Vous avez au tout début le thème du châtiment et du salut des nations voisines d'Israël, au début du chapitre 9, 9-1 à 8. Eh bien, tout à la fin du chapitre 14, vous avez châtiment et salut de toutes les nations, 14, 16 à 21. Ensuite, vous continuez à lire. Le thème B, c'est l'arrivée du roi. Humble et monté sur le petit d'une ânesse. Nous allons en reparler. Bon. Eh bien, ce thème qui correspond au B, vous le retrouvez trois autres fois, mais symétriquement, hein, selon la symétrie. Vous avez B' qui intervient en 11, 4 à 17. Vous avez B seconde. Là c'est le pasteur rejeté, le pasteur méprisé et rejeté, qui casse les deux houlettes qu'il a en main. Puis B seconde, c'est l'Éternel lui-même, en la personne de son représentant, transpercé. Au chapitre 12, verset 10 jusqu'à 13.1. Et puis finalement, B tierce, le compagnon du Seigneur qui est frappé. C'est 13, 7 à 9. Simplement pour vous donner toujours une idée de la symétrie. Après ce thème B, vous avez le thème C. Le thème C, c'est guerre et victoire d'Israël. Bon, eh bien, vous le retrouvez aussi en C prime. C prime 10, verset 3 jusqu'à 11, verset 3. Puis en C seconde. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait ici un croisement, hein, dans cette symétrie. Un raffinement de plus dans la symétrie. En C seconde, chapitre 12, verset 1 à 9. Guerre et victoire d'Israël. Et puis en C tierce, au début du chapitre 14, guerre et victoire d'Israël. Et puis finalement, vous avez le thème D, qui intervient deux fois, idole et châtiment de l'idolâtrie, 10 versets 2 et 3, et ici, des primes, idoles supprimées, au chapitre 13, versets 2 à 6. Vous voyez comment ces thèmes, et c'est le texte vraiment tel qu'il est, hein. Vous continuez à le lire et vous trouvez tout ça, voyez, avec ces thèmes qui se répondent, comme un grand W avec un croisement au centre du dispositif. Alors je dis tout de suite que ce qui nous intéresse nous le plus, c'est la série des B. J'y reviendrai, je pense que j'aurai le temps d'y revenir dans quelques instants, parce que c'est là que se trouvent des révélations vraiment remarquables sur la personne de celui qui doit venir. Oui. Il me semble évident, oui, que Zacharie a su manier tous les outils du langage, toutes les techniques de l'écriture d'une façon très très rigoureuse et remarquable. Et ça veut dire que son livre n'est pas si facile à comprendre. Vous voyez, c'est pas du journalisme et quelque chose qui se lit comme ça d'un trait. Il faut trouver toutes ces correspondances pour commencer à comprendre. Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit, il y a des tas d'allusions aux prophéties données antérieurement. Et c'est quand on voit ces allusions qu'on comprend ce qu'il a voulu dire, bien souvent. Alors, j'essaye de résumer le message sans vous donner tout le détail. Donc, je rappelle que nous mettons à part la séance de l'Institut biblique de janvier pour toutes les questions que vous aurez pu noter sur tous les livres prophétiques que nous avons étudiés. En décembre, nous verrons Malachie, mais en janvier, donc nous aurons terminé le cycle des livres prophétiques. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. J'essaierai. Hein. Il y aura des questions que je n'arriverai pas à traiter, mais tant pis. Comme j'enseigne un cours sur les prophètes depuis pas mal d'années, j'ai quand même pas mal de réponses aussi. Donc, j'espère vous donner une réponse qui pourra vous satisfaire. Alors, le message. Trois points principalement. D'abord, la mémoire. Le nom même de Zacharie signifie « l'Éternel se souvient hein. ». Zakar, c'est le verbe se rappeler, se souvenir en hébreu. Zakar, Yah, c'est le nom de l'Éternel. L'Éternel se souvient. Et il me semble qu'on peut dire que Zacharie, si l'on considère son message, est d'abord un prophète de la mémoire. Il dit à ses compatriotes, rappelez-vous tous les prophètes qui sont venus dans les siècles passés. Rappelez-vous tout ce qu'ils ont dit. Et comment leurs prophéties se sont réalisées pour vos pères. Alors n'agissez pas comme vos pères, qui eux ont détourné l'oreille, n'ont pas tenu compte de ces prophètes. C'est le thème que l'on trouve dans la partie introductive, au premier chapitre, c'est tout premier verset. Ne soyez pas comme vos pères, à qui les premiers prophètes proclamaient « Revenez de vos mauvaises voies, ils n'ont pas écouté », etc. Oui. Zacharie, par la technique même de toutes ces allusions aux prophètes antérieurs, apparaît comme un prophète de la mémoire. Et puis pas seulement de la mémoire humaine à l'égard de la parole de Dieu, mais aussi de la mémoire divine qui n'oublie pas, lui, son peuple. Les rescapés qui étaient revenus, les anciens déportés qui étaient revenus, comme je l'ai expliqué, étaient tentés par le découragement. Ils avaient cru que tout serait facile, qu'il y aurait des multitudes de miracles, et puis le train-train quotidien, c'était pas si brillant. Il y avait beaucoup de difficultés auxquelles faire face, et alors ils étaient tentés de penser que Dieu les avait oubliés. Et le message, en particulier dans les premiers chapitres, c'est que Dieu n'a pas oublié, qu'il n'abandonne pas Jérusalem, qu'il l'a choisi et se tient à son choix. Au chapitre 1er, verset 17, « Ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes déborderont encore de biens. » L'Éternel consolera encore Sion, il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Et ce thème est repris au chapitre 2, verset 16, il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Et au chapitre 3, ce que l'ange de l'Éternel dit à Satan pour le réprimer, c'est lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. Donc, le thème de la mémoire joue dans les deux sens. Dieu se souvient que les hommes aussi se souviennent. Alors juste là, pour nous, application, je crois qu'il est utile de nous rappeler l'importance de la mémoire. C'est incroyable comme nous pouvons oublier ce que le Seigneur a fait dans notre vie, oublier ce qu'il a fait dans la vie de son Église, ce qu'il a fait lorsque le Seigneur Jésus est venu. Nous nous laissons piéger par les apparences du moment présent. Nous faisons vraiment comme si nous n'avions pas su ces choses et si nous ne les avions pas vues, touchées, éprouvées nous-mêmes. Même à Timothée, Paul dit « Souviens-toi de Jésus-Christ » dans la seconde épître à Timothée. Et je crois que nous devons dire que la mémoire est vraiment une fonction non seulement mentale, mais spirituelle de première importance. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé, mais justement par la mémoire, de faire porter son fruit au passé pour notre présent. Ça, c'est un premier grand point du message de Zacharie. Deuxième grand point, celui qui concerne les deux offices dont il est question spécialement au chapitre 3 et 4, l'office royal et l'office sacerdotal du grand prêtre. Je pense qu'il est clair que, guidé par l'Esprit de Dieu, Zacharie s'est vraiment beaucoup intéressé à cette question. Les deux oints, les deux titulaires des offices d'onction, le grand prêtre et le roi, le rapport entre ces deux offices. Il en parle donc beaucoup dans le premier morceau de son livre, comme je l'ai souligné. En fait, il y a aussi dans la dernière partie du livre des indices qui montrent que le sujet l'intéressait toujours. Je vous signale au chapitre 11, le verset 8. Je crois que c'est quelque chose que tous les commentateurs n'ont pas vu, mais je vous donne mes conclusions sur l'interprétation. Dans la vision énigmatique sur le pasteur rejeté, le pasteur qui est l'Éternel, qui est rejeté par le peuple, il est dit « Je fis disparaître les trois bergers, trois pasteurs, en un mois. » Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis venu à la conclusion, pour ma part, avec d'autres commentateurs, mais pas avec tous, que les trois pasteurs représentent les trois offices par lesquels le troupeau du peuple d'Israël devait être conduit. L'office royal, l'office sacerdotal et l'office prophétique. Parce que c'est là le troisième office. Ils étaient oints du Saint-Esprit, les prophètes, pour parler au nom de Dieu. Alors ce sont ces trois offices, parce que les titulaires en ont trahi en Israël et Juda. Les rois se sont mal conduits, les grands prêtres ont laissé l'idolâtrie pénétrer dans le temple, les faux prophètes ont pullulé, donc je supprimais les trois offices, les trois pasteurs en un mois, veut dire le châtiment divin sur ces trois offices. Mais ça, cette mention nous montre que, même devenu vieux, Zacharie pense toujours à ses offices. Et puis l'autre indice qu'il le fait se trouve au chapitre suivant, où il est question du deuil lorsque l'effusion de l'esprit de supplication sera faite sur le peuple. Le pays sera dans le deuil. C'est le deuil de la repentance. C'est la tristesse selon Dieu qui produit la repentance, qui est représentée par ce deuil au chapitre 12. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part. Le clan de la maison de David à part et les femmes à part. Le clan de la maison de Nathan à part et les femmes à part, le clan de la maison de Lévi à part et les femmes à part, le clan de Shimei à part et les femmes à part. Tous les autres clans, chaque clan à part et les femmes à part. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, je vous dis ce que je crois l'interprétation. D'abord, pourquoi les femmes à part, tous ces clans à part, cette insistance sur le à part? Je crois que ça veut dire que la repentance qui est ici annoncée, c'est une repentance individuelle. C'est pas simplement la masse du peuple conduite par ses chefs qui dit « Israël se repent ». Il faut que ce soit chacun, chaque individu, donc chaque clan à part, les femmes à part. La femme, là, n'est pas en cause simplement comme soumise à son mari, puis elle suit son mari. Les femmes à part, c'est le caractère personnel de la repentance, de la conversion qui est ici en cause. Parce qu'il s'agit de l'attitude envers l'Éternel qu'ils ont transpercé, ils se repentent. Donc, l'insistance sur le à part, je crois que c'est l'indice que la conversion en cause est une conversion individuelle. Mais pourquoi mention du clan de David, de Nathan, de Lévi, de Shimei? Le clan de Nathan, c'est le clan du fils de David. C'est le clan principal dans la famille de David. Donc, c'est la lignée royale. Avec le grand ancêtre David, et puis le clan qui a le plus de poids, celui de Nathan. Shimei, c'est de même un fils de Lévi. Donc là, c'est la lignée sacerdotale des prêtres. Donc, c'est d'une part la lignée royale, d'autre part, la lignée sacerdotale, qui sont spécialement mises en relief dans cet oracle. Donc, nous retrouvons à la fin du livre de Zacharie ce même intérêt pour les deux offices. Alors, à quoi correspondent ces deux offices? Je pense qu'on peut dire que le prêtre est d'abord le médiateur entre Dieu et les hommes, mais surtout dans le mouvement qui va des hommes à Dieu, bien qu'il soit aussi un porte-parole de Dieu à l'égard des hommes. Mais le rôle du prêtre, c'est d'abord de traiter de l'énorme difficulté qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire le péché, qui attire la sainte colère de Dieu. Dieu ne peut pas supporter une telle ordure. Et donc le prêtre est l'homme qui accomplit les sacrifices, qui joue un rôle de médiateur pour que la question du péché soit réglée et qu'ainsi l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. C'est là le rôle sans doute principal du prêtre, et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux quand elle définit le rôle du prêtre, en fait. Il y a une définition du rôle du prêtre, du grand prêtre. Le rôle du roi, c'est d'être le lieutenant de l'Éternel et d'exercer la justice en son nom, de s'occuper du bien de la communauté terrestre pour qu'elle vive une vie ordonnée, et il est donc le lieutenant de Dieu, présenté par moments comme un fils adoptif de Dieu. Dieu l'adopte pour qu'il accomplisse ce rôle. Alors les deux doivent concourir pour le bien du peuple de Dieu, pour qu'il puisse rendre son témoignage. Il faut ces deux oints, comme deux oliviers qui dispensent l'énergie de son service au peuple de Dieu. Je crois que le chandelier, dans la vision du chapitre 4, représente le peuple de Dieu, qui doit faire briller à la gloire de Dieu sa lumière dans le monde. Que votre lumière luise devant les hommes. Mais comment le peuple de Dieu peut-il accomplir cette mission? Grâce aux offices que Dieu a instaurés, l'office sacerdotal et l'office royal qui collaborent dans cette fonction. Mais enfin, il y a quand même une difficulté, ils sont deux. Lequel est le plus important, l'office royal ou l'office sacerdotal? Il y a un risque au moins de division, de divergence, de tension avec ces deux offices. Et le risque était d'autant plus fort dans l'Ancien Testament qu'il était rigoureusement interdit qu'un même homme soit prêtre et roi. Là, c'était la disposition prise par Dieu. Clairement, le roi était pris dans la lignée de Juda. David était de la tribu de Juda. Et ce Juda ne pouvait pas être prêtre. Les prêtres étaient pris de la famille de Lévi. Et lorsqu'il y a eu une fois un roi qui a voulu usurper une fonction sacerdotale, savez-vous ce qui lui est arrivé? Il a été frappé instantanément de lèpre, ce qui le rendait impur, même si ce n'est pas la lèpre au sens moderne du mot, il était impur, c'était un sort terrible. C'était pourtant un roi pieux, un roi qui avait été béni par Dieu. C'était le roi Ozias, au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ce roi Ozias, qui avait été un bon roi, et il s'est cru justement parce que c'était un ami de Dieu, parce qu'il avait été béni, qu'il pouvait quand même alors aller offrir lui le parfum que seuls les prêtres ont le droit d'offrir. Et à cause de cette présomption, de cette transgression de la ligne de séparation stricte, ce n'est pas une ligne à pointillés, c'était une ligne jaune entièrement blanche, entièrement pleine, à cause de cette transgression, il a été puni aussitôt. Ce qui nous montre à quel point, dans l'Ancien Testament, la division était importante. Mais on se dit, c'est quand même pas une situation tout à fait heureuse qu'à la tête du peuple, il y ait au fond deux officiers du Seigneur différents. Et un psaume, déjà de l'époque de David, laisse attendre que quand viendra celui qui doit venir, cette séparation cessera. C'est le psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Tu es grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y avait quand même un roi prêtre agréé de Dieu dans l'histoire de l'Ancien Testament. C'était avant la loi, c'était avant qu'Israël soit constitué, c'était au temps d'Abraham. Alors, la séparation n'avait pas encore été instituée. Et le psaume 110 nous dit que, comme à l'époque de Melchisédek, où il y a eu un seul homme qui était à la fois roi et grand prêtre agréé de Dieu, le fils de David, que David appelle aussi son Seigneur, serait grand prêtre en même temps que roi. Et c'est le relais de cette promesse qu'on trouve ici dans le livre de Zacharie. Au chapitre 3, il est question de Josué, du grand prêtre, et Dieu lui dit qu'il est un homme de présage, donc une préfiguration, et lui dit « Je vais faire venir mon serviteur, le germe ». Mais le germe, c'est un titre pour le fils de David attendu, d'après le livre de Jérémie. Jérémie utilise, si je me rappelle bien, à deux reprises, ce titre-là, c'est devenu stéréotypé, pour le Messie attendu, fils de David, le roi. Le germe. Alors c'est vraiment étrange. Cela est dit au grand prêtre, tu es une préfiguration pour le serviteur, le germe, pour le roi à venir. Et puis au chapitre 6 alors, c'est de nouveau Josué qui est couronné de cette double couronne, parce que c'est un pluriel dans l'hébreu. Ce n'est pas... si, c'est bien rendu dans la colombe. Tu en feras des couronnes. Je pense qu'on peut comprendre que c'est une double couronne. C'est Josué qui reçoit cette couronne, mais double. Hein. Et ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Donc c'est un roi, c'est le roi à venir, vous voyez, c'est le germe, c'est clair. Et puis en même temps il est dit, alors littéralement, là la colombe n'a pas traduit littéralement, et il sera prêtre sur son trône. La colombe, malheureusement, a été gênée là, et a mis, il y aura un sacrificateur sur son trône. Mais c'est le verbe être, et sera prêtre sur son trône. Il y a un seul trône, là. Ils vont pas se mettre à deux personnes différentes sur un même trône, voyez. Lui qui régnera avec les insignes de la majesté royale, parce qu'il est le germe annoncé, il sera aussi prêtre sur son trône. Et c'est l'épître aux Hébreux qui nous montre comment cela s'est parfaitement accompli en Jésus. Jésus est le roi et le grand prêtre. Lui qui a parfaitement réglé toute la question du péché qui nous séparait de Dieu par le sacrifice, mais qui est aussi le Seigneur qui règne sur son peuple, qui exerce la justice, qui triomphe du mal qui s'y commet, qui permet au peuple de Dieu d'être comme un tout prospère qui s'épanouit et qui grandit. Il est le roi et le prêtre. Pourquoi cette division dans l'Ancien Testament entre royauté et sacerdoce? Et pourquoi leur union en Jésus-Christ? Je crois que la raison est la suivante. C'est là-dessus que j'avais travaillé pour mon mémoire à la fin de la première série d'études. Je crois que la raison est la suivante. Si on se met sur la terre, il est très dangereux qu'un même homme soit roi et prêtre. Comme prêtre, il règle la relation à Dieu directement, en quelque sorte. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais comme roi, il règne sur la terre. Il doit tenir compte de toutes les contingences terrestres. Son royaume est forcément un royaume terrestre, même si le nom de l'Éternel y est honoré. Or, le royaume qui accomplit vraiment la volonté de Dieu, ce n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. dit Jésus à Pilate. Donc tant que le royaume était un royaume établi au plan terrestre, un royaume charnel, comme était le royaume de David, alors il ne pouvait pas y avoir union avec le sacerdoce, parce que ça risquait de créer vraiment une confusion dramatique entre les réalités terrestres et les réalités célestes. Mais Jésus peut être à la fois roi et prêtre, parce que son royaume n'est pas de ce monde, parce que c'est le royaume spirituel. Oui. Et à ce moment-là, non seulement il peut l'être, mais il doit l'être. C'est la réalité spirituelle dans son unité. Le triomphe sur le mal, il a les deux aspects de l'expiation parfaite et de la victoire remportée sur le mal. Donc quand on est au plan spirituel, les deux sont unis. Et c'est le cas en Jésus. Mais quand on était au plan des figures charnelles de l'Ancien Testament, il fallait séparer. Voilà, je crois, pourquoi nous avons cette situation. Alors tout cela est très, très intéressant pour notre réflexion, même notre rapport aux autorités établies dans nos nations, même s'ils ne sont pas des rois. Bon, il y a toujours quelque chose de royal qui s'y attache, on le sait bien. Et je pense que ça peut avoir des conséquences, même sur le rapport de l'Église et de l'État. Mais je n'insiste pas, le temps est trop avancé. Je souligne simplement la plénitude qu'il y a en Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis je mentionne simplement le troisième point. Puis si vous avez des questions, donc rappelez-vous qu'en janvier, il y aura toute une heure pour les questions. Le troisième point, c'est que si le grand prêtre à venir peut être aussi roi et le roi grand prêtre, d'après chapitres 3 et 4, c'est parce que le sacrifice véritable qui enlève le péché sera offert, et sera offert par lui. La prophétie au chapitre 3 dit « Mon serviteur, le germe, mon serviteur ». Ça ne vous rappelle rien ? Mais c'est une allusion évidente aux prophéties du serviteur dans le livre d'Ésaïe. Nous les avons étudiées, je crois, l'an dernier, brièvement, dans ce survol. Ésaïe 53, c'est le serviteur de l'Éternel qui prend le péché sur lui, qui est frappé à mort pour nous, pour que la question du péché soit réglée. Et Zacharie 3 est construit en quelque sorte sur Ésaïe 53. Je fais venir mon serviteur le germe, et ainsi j'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. Il va y avoir un sacrifice, ce pays, mais on peut même traduire la terre, pas seulement ce pays particulier, mais toute la terre. Il va y avoir un sacrifice, celui du serviteur, par lequel la faute de toute l'histoire, de tous les humains, dans tous les temps et dans tous les lieux, sera enlevée, expiée. Voilà ce que nous dit ce passage. Et si Josué peut être magnifiquement délivré de son péché, purifié dans la première partie du chapitre, c'est à cause de ce sacrifice à venir, par une sorte d'anticipation de son effet. Josué est là devant Dieu, dans la vision, le grand prêtre, couvert de vêtements sales, et je peux vous dire qu'en hébreu c'est un mot horrible, c'est les excréments. Vraiment, c'est toute la saleté du péché qui est accumulée sur lui. Pourquoi une telle accumulation ? Parce que le grand prêtre devait s'occuper du péché. Et chaque année, au grand jour des expiations, Yom Kippour, le grand jour des expiations, il devait faire l'expiation pour tous les péchés accumulés de l'année. C'est lui qui les prenait en quelque sorte, et par le sacrifice, expiait, puis il portait le sang dans le lieu très saint. Mais pendant les 70 ans de la captivité, le temple détruit, il n'y a pas eu de grand jour des expiations. Alors il est vraiment couvert. Horrible. Et ça pue. Horrible. Et le Satan est là pour dire, tu vois, pour l'accuser. La grande force de Satan, c'est qu'il dit vrai quand il accuse. Et la grâce de Dieu intervient. La grâce de Dieu intervient. J'enlève tous ces vêtements. Et non seulement je les enlève pour que tu sois propre, mais à la place des vêtements blancs et un turban pur, qui est un turban de fête et pour le service sacerdotal. Comment est-ce que ça est possible, cette grâce qui enlève le péché gratuitement à cause du sacrifice du serviteur ? parce que j'enlèverai tout le péché de toute la terre en un seul jour. Vous voyez à quel point ce texte est déjà le Nouveau Testament, avec une précision, une force extraordinaire. Et dans les chapitres 9 à 14, les passages en B tierce, développent cela en fait, nous montrent que c'est par la souffrance, par le rejet, en étant transpercé, que celui qui doit venir accomplira le plan de Dieu qui est le plan de notre salut. Voilà, alors il y aurait beaucoup d'autres choses donc dans le livre de Zacharie, bien sûr. J'essaierai de répondre si vous avez des questions précises en janvier. Nous verrons Malachie en décembre. Si maintenant il y a une ou deux questions, nous avons juste pris une heure, mais s'il y a des questions maintenant qui sont trop brûlantes, je peux essayer de donner une brève réponse. Oui, Monsieur Berger.
En plus d'Osias, il y a eu encore un autre roi qui a offert ce commandement et qui a offert un sacrifice et qui a été destitué à cause de cela. C'est Saül.
Oui. Oui, Saül, sa faute exacte n'est peut-être pas définie aussi clairement comme transgression de cette règle, parce qu'il y a aussi la faute d'impatience. Il n'a pas attendu Samuel comme il lui était commandé par Dieu. Et le simple fait d'offrir un sacrifice, ça peut se dire de l'adorateur qui apporte le sacrifice. Donc ce n'est pas forcément le rôle sacerdotal que d'offrir le sacrifice, simplement l'offrir. Cela dit, en l'occurrence, comme Samuel n'était pas là, qui jouait le rôle sacerdotal, il était prophète, mais aussi prêtre. Saül, donc, a sans doute aussi enfreint cette règle.
Il a été destitué à cause de ça.
Ah oui. Monsieur Chavan.
Je ne comprends pas pourquoi Melchisedec a eu, lui, l'autorisation, si ce n'est pour être l'image de Christ, d'être héros en fait.
Alors, c'est effectivement une question qui est assez délicate. Je pense qu'on peut dire, c'est ça ce que j'ai essayé de formuler tout à l'heure, que c'est parce que la loi n'avait pas encore été donnée, que l'organisation des offices pour le peuple de Dieu n'avait pas encore été mise en place. Donc, il bénéficiait du flou d'une période antécédente. On peut répondre comme ça. Je crois qu'en fait, on peut répondre en réfléchissant plus avant et en disant que c'est parce que son sacerdoce était un sacerdoce spirituel, et non pas charnel, qu'il a pu lui unir une royauté charnelle et un sacerdoce spirituel. Alors que le sacerdoce de Lévi était un sacerdoce charnel, donc il n'était pas possible qu'il soit avec la royauté charnelle, le sacerdoce de Jésus, comme sa royauté son spirituel, dans le cas de Melchisédek, c'était sacerdoce spirituel et royauté charnelle. C'est très schématiquement, en gros, ce que j'ai essayé d'expliquer. J'ai dit, dans mes jeunes années, j'ai travaillé là-dessus. Ce qu'on appellerait aujourd'hui mémoire de maîtrise, c'était aux États-Unis, je l'ai consacré à ce point précis. Alors, ça n'a jamais été publié, hein, je l'ai, mais en anglais. J'avais dû écrire en anglais. Et je continue de croire que c'est une bonne solution du problème que vous avez posé. Oui, madame. Alors, en un sens, oui, je pense qu'on peut dire que Jésus, lui aussi, a, justement, pour accomplir son sacrifice en tant que serviteur et grand prêtre, a pris toute notre ordure sur lui. Mais lui n'en a pas été délivré simplement, justement, par une grâce qu'il enlève. Il l'a expié en donnant sa vie. Ce passage a ému bien des hommes de Dieu dans le passé. Et je peux signaler à ce sujet deux souvenirs historiques, puisque nous parlons du rôle de la mémoire. John Wesley a été très impressionné par ces versets, et tout spécialement par la phrase « N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Il s'est identifié en quelque sorte à Josué, parce qu'enfant, il avait échappé de justesse à un incendie. Il l'a vu comme un signe de la part de Dieu, et cela l'a conduit à lui consacrer sa vie comme il l'a fait, et puis aussi à s'identifier à Josué, le pécheur à qui Dieu enlève ses vêtements sales pour lui donner des vêtements de pure grâce, éclatants et purs. Et puis, ça, c'est, on le sait beaucoup moins, mais Rubens Sayens, donc le fondateur de notre Église, était, après sa conversion, il était déjà au service de Dieu. Il avait commencé très jeune. Il était tombé dans un péché sérieux. Et il y a eu comme une sorte de deuxième conversion. Un retour à Dieu pour lui. Et semble-t-il à la lecture de Zacharie 3. Parce que sa femme a marqué en marge de la Bible conversion de Rubens. C'était une sorte de deuxième conversion, mais il avait été saisi là aussi par la force de ce passage. Donc ça, c'est plus directement la préhistoire ou la première histoire de notre Église. Voilà, je crois que maintenant c'est l'heure, donc je serai prêt à essayer de revenir sur certaines questions au mois de janvier. Au mois